Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Elle est analyste indépendante, elle est autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Bonjour Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma.
De la radio Capi.
En ligne, Faustin Kouyassala, il est journaliste, il est directeur de publication du journal Econews, apparaissant à Kinshasa. Bonjour Faustin Kouyassala.
Oui, bonjour Guy, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et aussi en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Faït, il est journaliste à la RTBF. Bonjour Benoît Faït.
Oui, bonjour Guy, ainsi que bonjour à tous les autres invités, interlocuteurs et auditeurs et auditrices de Radio Capi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, Channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Faustin Kouyassala. Il est journaliste et il est directeur de publication du journal Econews, apparaissant à Kinshasa. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est analyste indépendante, elle est autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu, et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique. Benoît Faït, il est journaliste à la RTBF. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, les trois boucliers de la communauté pour briser la chaîne et sauver des vies, lancement par les principales forces politiques de l'opposition de la plateforme dénommée Coalition Article 64, C64, pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC. Et enfin, l'inspection générale des finances, IGF, annonce que son établissement passe de la patrouille financière au contrôle systémique. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de cet énième massacre des civils par les ZDF à Mombasa. En effet, 17 civils ont été tués mardi 19 mai lors d'une attaque attribuée aux rebelles des ZDF dans les villages d'Alima, en territoire de Mombasa, en Ituri. Selon des sources onusiennes, 6 autres corps ont été découverts, ce qui fait un total de 23 morts. Parmi les victimes figurent des pygmées, selon des sources de la société civile. Les assaillants ont d'abord été aperçus aux abords du village vers 11h locales, où 2 personnes ont été exécutées avant l'attaque du centre d'Alima, en dépit de l'alerte donnée aux services compétents, selon des sources locales. Au cours de cette incursion, un hôtel, plusieurs kiosques et des motos ont été incendiés. Des chèvres ont également été emportées par les rebelles. Et selon les mêmes sources, de nombreuses autres personnes restent portées disparues, tandis que certaines zones demeurent difficilement accessibles. Les mercredi 20 mai au matin, ces assaillants ont poursuivi leur progression vers les villages des Manyama, où 2 autres civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées. Des habitants ont également été pris en otage. Faustin Kouyassala, que vous inspire cet énième massacre des civils par les ZDF dans la partie est du pays et plus précisément dans les territoires de Mambasa, en Ituri?
Merci Guy pour la question. Bon, évidemment, cet énième massacre nous pousse à s'interroger sur l'efficacité même des opérations conjointes engagées entre la RDC et l'Ouganda. On se rend compte qu'évidemment, c'est comme si on a été, nous de la RDC, on a été naïfs en invitant le plus officiellement du monde les armées ougandaises à opérer en République démocratique du Congo. Parce qu'on se rend compte, en fait, c'est comme si l'Ouganda, son intérêt dans cette affaire-là, c'était juste d'éloigner le plus possible de ses frontières les ZDF, et qui reste encore nuisible. En fait, on a voulu faire le problème de l'ADF un problème entre la RDC et l'Ouganda, alors que c'est un problème qui n'est pas seulement transfrontalier, c'est un problème régional. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a la difficulté de neutraliser les ADF, parce que ces rebelles-là opèrent presque en facteur combiné. D'abord, c'est un groupe armé qui maîtrise parfaitement les zones forestières et montagneuses de l'Est de la RDC, et ce qui complique les opérations militaires classiques. Et ensuite, on se rend compte que ces ADF-là fonctionnent en petites cellules mobiles. Ils sont capables de frapper rapidement puis de se disperser avant l'arrivée des forces de sécurité. Donc ces massacres-là devaient pousser nos autorités à revoir et peler leur narratif. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rendent compte que ce problème-là, il est complexe et il ne peut pas être résolu seulement avec l'Ouganda. Bon, l'Ouganda, de son côté, il se plaît, il est calme. Parce qu'aussi longtemps qu'il a repoussé ses ADF, vous avez dit tout à l'heure que ce massacre-là est opéré vers Mombasa. Mombasa, c'est à plus de 300 km de la frontière avec l'Ouganda. C'est comme si l'Ouganda nous envoyait son problème. Et c'est à nous maintenant de le gérer. Lui, au niveau de sa frontière, il est calme. Il a sécurisé la frontière et nous a presque légué le problème. Et c'est à nous maintenant de commencer à le gérer.
On a délocalisé la menace ADF sur le territoire.
Voilà, exactement ça. Et l'avantage pour l'Ouganda, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, là, c'est comme si nous, de Kinshasa, on a été naïfs. On a invité l'armée ougandaise, et l'armée ougandaise est arrivée. Son objectif premier, c'était d'éloigner de sa frontière les ADF. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est nous qui devons subir. Maintenant, on doit se poser la question, mais à quoi auront servi ces opérations conjointes militaires qu'on mène avec l'armée ougandaise? Parce que finalement, on se rend compte que les ADF-là nous posent plus de problèmes qu'à l'Ouganda. Donc, on doit tout revoir.
Merci beaucoup, Faustin Kodiasala. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, cette guerre des ADF, peut-on parler d'une guerre oubliée?
Je commence par présenter mes condoléances aux familles éprouvées dans la province de l'Ituri. Depuis le 19 mai, nous avons déploré cette disparition de 23 compatriotes abattus, massacrés par les rebelles ADF. Et donc, pour le gouvernement, nous lançons un appel à l'action urgente parce que nous avons des articles dans la Constitution, dans les lois du pays qui protègent la sacralité de la vie, mais depuis 2014, nous assistons à des massacres innommables dans l'est de la RDC, dont les auteurs sont les ADF, et donc nous condamnons ces énièmes massacres et demandons à des mesures renforcées pour sécuriser la population de province de l'Ituri et du Sud-Kivu.
Peut-on parler d'une guerre oubliée?
Bon, c'est aux autorités et même les médias aussi ont un rôle à jouer. Parce que quand il y a une pression dans la communauté, les autorités agissent. Mais au niveau des médias, on sent qu'à part la radio Capi, qui ne cesse vraiment de faire un travail remarquable pour documenter, alerter et même donner l'actualité par rapport à ces attaques récurrentes dans les deux provinces, les autres médias sont vraiment silencieux. Et donc, il faudrait qu'il y ait un effort, un élan de toute la communauté, pas seulement des décideurs. Les décideurs ont un rôle à jouer, mais si la pression est forte du côté de la communauté, ils vont réagir. Et donc, elle n'est pas forcément oubliée, mais il faudrait qu'on puisse changer des stratégies en termes de communication pour demander l'implication de tout le monde. Nous rappelons aussi que la communauté ciblée est ultra vulnérable avec plusieurs crises sécuritaires de toute forme qui ne cessent d'endeuiller cette partie de la nation. Et aussi, l'objectif des ADF, ce sont de prédateurs économiques qui veulent dilapider les ressources naturelles de la RDC, s'accaparer pour plus tard devenir une menace pour l'Ouganda. Et donc, les opérations conjointes sont à questionner en demandant si l'Ouganda fait face au même défi ou c'est seulement la RDC. Parce que si nous sommes dans une opération conjointe, ça veut dire que de leur côté aussi, il y a des menaces sérieuses qui sont sous leur tête. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est seulement en RDC où il y a ces situations-là. Et notre élément à déplorer, c'est la réactivité des FRDC. Parce qu'il y avait des alertes de la société civile ou de la communauté, mais qui n'a pas été prise au sérieux. Et donc, il faudrait réajuster cette façon pour la RDC de prévenir et même de riposter contre les attaques des ADF et aussi réquestionner l'état des sièges. Parce que depuis 2021, nous avons cette situation, mais pas des résultats. Et donc, il y a lieu vraiment d'interroger la stratégie militaire en place en RDC.
Merci. Benoît Faït, est-ce qu'on peut espérer combattre efficacement cette menace des ADF quand on se rappelle que la guerre contre l'ASM-23 avait quelque peu éclipsé cette guerre des ADF? Et maintenant, il y a cette 17e épidémie d'Ebola. Et on sent que toutes les attentions semblent focalisées vers la riposte contre cette maladie. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui doit être fait pour ne pas donner l'impression que cette guerre contre les ADF est négligée au profit des impératifs, notamment sanitaires?
Vous avez tout d'abord raison, évidemment, Guy, de souligner cette situation et une des raisons pour laquelle on occulte malheureusement ces massacres qui n'en finissent pas. Il faut aussi dire que dans une perspective du regard des médias occidentaux, internationaux en général, il y a même tristement une confusion qui se fait. Le public mondial n'a pas une perception très précise de la différence, en fait, de la nature des conflits qui se passent. Et ils ont peut-être l'impression que c'est de nouveau une rébellion qui occupe le terrain au Congo, sans comprendre que c'est d'une toute autre nature, avec d'autres motivations, d'autres structures que celles qui, comme le M23, l'AFC M23. Maintenant, il y a une chose qui m'est venue en tête, c'est quand j'ai l'impression qu'il y a quand même un deux poids deux mesures. On sait que les ADF sont reconnus comme étant un groupe terroriste affilié à l'islamisme radical, qui est également le cas de ces rebelles qui sèment le chaos dans un autre pays, au Mozambique, dans le Cabo Delgado, où là, il y a une réaction internationale très très forte. On a même dépêché des troupes rwandaises, financées notamment par l'Union européenne, pour qu'ils puissent lutter contre ces rebelles islamistes sur place. Mais on sait aussi que la grosse différence, c'est qu'ils sont intervenus au Cabo Delgado avant tout pour protéger des intérêts économiques occidentaux, notamment ces fameuses usines Total qui sont en construction. Et je dirais que malheureusement, le drame de l'Ituri, peut-être le drame pour les populations de l'Ituri, c'est qu'il n'y a pas d'usine à protéger dans leur région et que c'est une des raisons pour laquelle malheureusement le drame et les massacres qu'ils subissent sont complètement occultés, en dehors du fait qu'aujourd'hui, Ebola aussi occupe une place médiatique, peut-être démesurée, au regard de ses victimes.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Mémoire Yann Zambé de Félix Oazekwa et on se retrouve juste après.
Bisogno sottosalina memoria in zambe, ma se non lo lenghenini. Zambe o sala koyeba, na kobo sana. Kasi biso bike la munayo, tuo po sana kamingi, yango tu ye pa ina yo me. Mwa biso na memoire na yo. Oto ayebi ko sambate, avoka sambila kaye. Oyo ayebi ko lingate, ako benga nani. Biso tuye pa ina yo me.
Mei
Walisa biso na bolingo na yo.
Zame
oh, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur terre, ndenge Jésus-Christ. Atea kibiso to senga kayo plus que jamais. To komi na poser au continue.
Plus que jamais. To komi na poser au continue.
Bana Israël, bafanda ki na bohumbu, na mboka Pharaon. Kasi yo posa na ki bangote. Yotinda ki Moïse, Moïse a tuni osokiba, tuni enani a tindi, ozongi saki na Moïse te.
Oza linzambe a bayame, Isakepe a Jacob.
Kole la ya bato, basale la yo, posta na kate, yango nzambe na kangama na yo. Oyo zanzambe moza isi. Poko, ponini, yo simbi belina maboko, ponini,
Ata
babo minzoto
kati molimote.
C'était Mémoire Yanzambe de Félix Wazekwa. On revient à l'actualité de cette semaine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a officiellement déclaré mercredi 20 mai à Genève que l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda constitue une urgence sanitaire publique de portée internationale. C'est la toute première fois qu'une telle décision est prise par la direction générale de l'OMS avant même la convocation de son comité d'urgence. Le directeur général de l'OMS a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse co-animée avec d'autres experts de l'OMS, dont le directeur pays de la RDC. Plusieurs facteurs aggravent le risque de propagation, l'insécurité chronique, la mobilité de la population, la souche du virus. Face à ces risques, l'OMS a débloqué des fonds supplémentaires issus de son fonds de contingence pour les urgences, portant son appui total à 3,9 millions de dollars américains afin de déployer du personnel et du matériel sur le terrain. En l'absence de vaccins, les comités d'urgence de l'OMS insistent sur la stricte application des mesures de contrôle barrières et des surveillances pour stopper la transmission et sauver des vies. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, vous êtes analyste indépendante, vous êtes autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Vous avez souhaité nous parler des trois boucliers de la communauté pour briser la chaîne et sauver des vies face à cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais rappeler que la 17e épidémie de maladie de virus Ebola, qu'on appelle Bundibugyo, est une urgence de santé publique depuis quelques semaines en RDC. Et par rapport aux statistiques du ministère de la Santé, nous avons environ 160 décès suspects, dont 68 cas confirmés, avec 160 guéris. Et donc c'est déjà une situation alarmante. Et donc nous avons les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors pour donner les trois boucliers de la communauté pour briser la chaîne de la propagation et sauver des vies, je m'en vais citer les mesures à prendre avant que la maladie n'atteigne d'autres provinces, pendant que la maladie est en cours dans certaines provinces et après la maladie à virus Ebola. Et donc avant, il faut à tout prix prévenir. Parce que les autres provinces qui sont voisines de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, doivent à tout prix renforcer les mesures de contrôle dans les barrières et même dans les voyages de passagers qui viennent de ces provinces. Et donc la prévention et l'hygiène est une méthode qui va prévenir davantage la transmission. Nous avons également la prise en charge, là c'est pendant la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord reconnaître les symptômes. Et donc on rappelle, nous avons la fièvre brutale, la fatigue intense, des douleurs aiguës. Tout ça doit alerter tous les patients dans tous les hôpitaux et même ceux qui ne sont pas encore dans les hôpitaux. Et donc la prise en charge est une stratégie de riposte rapide à envisager pour les services du ministère de la Santé et même la communauté de manière générale. Après la crise, parce que cette crise épidémiologique passera, il faudrait maintenir certaines situations. D'abord, les enterrements sécurisés, parce qu'on a dit que la maladie se propage davantage quand on manipule le corps des victimes de la maladie. Et donc, il faudrait que ces enterrements sécurisés soient toujours maintenus. Il faudrait que la riposte ou la prévention, les lavages systématiques de mains soient maintenus dans les écoles, les hôpitaux, les bureaux et même dans les marchés qui aient toujours les ports de désinfectants, gel hydroalcoolique pour tout le monde pour se préserver contre la propagation. Au niveau des hôpitaux, qu'il y ait toujours des cellules de riposte ou d'isolement dans les hôpitaux, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui est atteint par la maladie et qui ne l'est pas. Et au niveau du ministère de la Santé, qu'il y ait un budget en urgence qui soit adopté pour que l'engagement communautaire soit aussi manifeste. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les personnels des soignants qui sont plus mobilisés et on oublie que nous avons des relais communautaires, nous avons des organisations de la société civile qui sont en contact permanent avec la communauté et qui doivent être mobilisés, même dans les provinces déjà affectées ou dans les provinces non affectées. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette mobilisation financière pour riposter du point de vue de la communauté, ainsi que des plans de contingence, c'est-à-dire quelles sont les mesures qu'on adopte. Est-ce qu'on opte pour un état d'urgence sanitaire pour toute la RDC? Parce que déjà 160 cas de décès suspects, c'est déjà alarmant pour une nation comme la RDC, où les mesures de distance physique ne sont pas observées dans les transports, où il y a encore de mouvements de population, surtout pour les provinces affectées par la crise sécuritaire. Et donc, moi, je pense qu'il est important qu'il y ait vraiment un dialogue social urgent par rapport à cette situation de maladie à virus Ebola. On ne doit pas les prendre à la légère, comme c'est le cas encore pour les provinces non affectées. Et pour les provinces affectées, où les gouvernements n'ont pas accès à la communauté, parce qu'on prend l'exemple de la province du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, les aéroports sont fermés. Comment on va faire parvenir des produits, des vaccins, parce qu'il n'y a pas encore un vaccin, mais il y a quand même des produits qui peuvent être déployés en urgence, expédiés dans les centres soignants de la place. Donc on doit mettre de côté la crise sécuritaire, parler directement avec les occupants pour pouvoir atteindre les communautés, les préserver, parce que ce n'est pas parce qu'on est atteint par la maladie qu'on meurt directement. S'il y a une prise en charge à la hauteur, on peut sauver des vies, et donc il est important d'ouvrir les aéroports de Goma, Bukavu pour acheminer l'aide médicale, acheminer les personnels soignants en urgence, et pourquoi pas l'INRB avoir des équipements qu'il faut pour les provinces du Nord, Sud Kivu et Ituri.
Merci Benoît Faïd, vous êtes journaliste à la RTBF. Hein. Depuis que la riposte, n'est-ce pas, a été enclenchée, on a constaté qu'il y a beaucoup de défis qui doivent être relevés, parmi lesquels l'identification des cas suspects. Or, on se rend compte qu'on a du mal, n'est-ce pas, à identifier tous les cas suspects. Vous pensez qu'il sera facile de briser la chaîne des propagations, aussi longtemps qu'on ne voit pas relever ces défis d'identification des cas suspects?
Non, c'est évidemment toute la difficulté du recensement qu'on connaît en République démocratique du Congo, aussi au sens plus large. Je vous donnerai un exemple. Ici à Bruxelles, d'où je vous parle, on s'inquiète aussi de la propagation de ce virus d'Ebola. On se dit que tôt ou tard, ça pourrait aussi nous atteindre ici. Donc on a conscience depuis la Belgique que ce qui se passe au Congo est vraiment quelque chose d'important, mais pour l'instant on a l'impression que c'est encore fort distant, mais on sait que voilà, les virus se propagent, hein. On sait comment ça s'est passé à l'époque du coronavirus, du Covid. Évidemment, avec Ebola, on est dans un tout autre type de virus. C'est pas le même système de propagation. C'est pas un virus volatile. Il se transmet par le toucher. Mais ce qui attire aussi l'attention, c'est que j'ai été contacté hier d'une personne qui me disait, voilà, on voudrait faire de la prévention à Bruxelles auprès notamment de la communauté congolaise, au sein de laquelle il y a une forme d'inquiétude, hein. Il y a des gens qui reviennent du pays, qui se disent, mais peut-être que j'ai été contacté. Donc, les gens se précipitent un peu dans les hôpitaux dès qu'ils ont le nez qui coule, en se disant, ben voilà, je voudrais être sûr que je n'ai pas Ebola. Et donc, il y a une espèce de peur panique. On se dit, mais alors, comment finalement informer la communauté ici à Bruxelles? Par quel biais? Et la première idée qu'on a en tête, c'est passer par les églises, notamment les églises de réveil. Mais on sait que c'est un discours qui n'est pas toujours très facile à répercuter par les églises de réveil. Donc, je pense de ce côté-là, au-delà du recensement, il y a aussi comment faire pour mobiliser l'ensemble de la communauté, tous les acteurs, toutes les actrices qui comptent au sein de la société congolaise, pour que tous ensemble, on puisse faire diffuser les bonnes informations. C'est aussi un enjeu très important dans la lutte contre ce virus, je pense.
Voilà, la mobilisation est un élément important. Vous avez même suivi ce qui s'est passé dans la cité des Remparts ce jeudi, hein, où les gens ont incendié, n'est-ce pas, des tentes dans un hôpital qui prenait en charge les malades d'Ebola, tout simplement parce que les médecins ont refusé de restituer les corps à la famille. Voilà, en réaction, ils ont incendié les tentes, et cela soulève toute la problématique, n'est-ce pas, d'appropriation de la question par la population, Benoît Faïd.
Absolument, je pense que c'est un exemple qui est parfaitement illustratif de ce que j'essaie de dire là, c'est que tant que la bonne compréhension de ce qu'est ce virus, comment il se propage, quels sont les risques et comment le contrer n'aura pas été suffisamment diffusé à large échelle, tant que au sein de la population cette compréhension n'est pas présente, on risque d'aller vers des comportements de plus en plus à risque, et on connaît aussi toute la cruauté de cette maladie qui se transmet, ça a été répété par vos invités, lors des deuils, lors des funérailles. Et c'est là que je n'ai pas de solution miracle, évidemment, mais je pense que la mobilisation de tous les acteurs, notamment les acteurs sur le terrain spirituel, est déterminante dans cette lutte.
Merci, Faustin Kodessala. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur des publications du journal Econews, paraissant à Kinshasa. C'est vrai que la RDC a une longue expérience dans la lutte contre cette épidémie, mais à l'allure où vont les choses, avec des cas qui augmentent chaque jour, vous ne pensez pas que la RDC risque, à un moment donné, d'être débordée par cette maladie?
Merci pour la question. J'ai suivi évidemment le point de vue développé par mes deux co-débatteurs. En fait, la question qu'il faut se poser en première, c'est que, tel que vous présentez cette nouvelle épidémie d'Ebola, c'est comme si on était à la première. C'est la 17e, mon frère. C'est-à-dire, et chaque fois qu'une épidémie survient en RDC, évidemment par rapport à Ebola, on se rend compte que c'est comme si on repart à la case de départ, et puis on commence à s'organiser pour voir comment organiser la riposte. Donc c'est comme si quelque part il n'y a pas une politique permanente de prévention. Parce qu'à chaque survivance d'épidémie, on répertorie presque les mêmes faiblesses. Un système de santé défaillant, une faible surveillance épidémiologique, et une dépendance au financement extérieur, et une absence presque, disons une absence d'une présence sanitaire dans les zones reculées. Parce qu'on est à la 17e épidémie, et on devait se poser des questions, des vraies questions évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là pour qu'on organise un bon système de prévention? Mais nous devons aussi intégrer dans notre politique sanitaire une stratégie transversale de prévention. Vous savez, dernièrement, je suivais le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB. Mais ce qu'il a dit devient nous révolter tous. On connaît qu'en Afrique centrale, l'INRB est le plus important centre d'analyse et de recherche des infections bactériennes, ainsi de suite. Mais l'INRB, selon le professeur Mouyembe, il nous annonce tous que l'INRB ne reçoit pas de subsides publics. Et plus encore, le docteur Mouyembe nous révèle que l'INRB gère au cœur de la capitale de RDC une biobanque, dont une réserve de microbes nuisibles et de virus totalement mortels. Imaginez un peu si jamais l'INRB se retrouvait dans l'incapacité de gérer cette biobanque. Mon cours droit vers une catastrophe sanitaire.
C'est ça.
Donc quand on est à une 17e épidémie, on ne peut pas nous proposer ce qu'on nous donne comme spectacle actuellement. Vous l'avez dit, la RDC n'est pas à sa première épidémie. Donc ça fait 50 ans. Parce que la première épidémie, c'était en 1976. Et 50 ans après, on est encore là en train de tâtonner, mon frère. Ce n'est pas normal. En 50 ans, on devait déjà organiser un système de prévention parce qu'on sait que la RDC, c'est un berceau de ces virus qui peut muter à tout moment et qui peut réapparaître dans un coin de la République. Mais ça, on ne le sent pas. Et maintenant, on est en train de tendre la main vers l'Organisation mondiale de la santé. On est en train d'étendre la main vers la communauté internationale. Évidemment, moi je ne suis pas microbiologiste, même pas virologue. Ceux-là nous disent que non, la menace est juste régionale et que le monde entier ne peut pas exprimer des inquiétudes. Mais si un virus là, depuis son lieu d'incubation, on ne sait pas le maîtriser, il peut toujours se propager dans la région et au-delà. Le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, ils ont déjà fermé leurs frontières. Et si jamais ça s'étendait ailleurs? Parce que la grande crainte aujourd'hui, heureusement, ils ont démenti. On nous a dit qu'à Kinshasa, on avait détecté un cas suspect d'Ebola venant de l'Ituri, mais les autorités sanitaires l'ont vite démenti. Imaginez-vous dans cette ville-là, avec la promiscuité qu'on a dans la ville de Kinshasa. Si on a 2-3 cas ici, mais on est tous foutus. Donc c'est juste toutes ces priorités qu'on devait inscrire. Et je crois que je vais terminer par là. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, parce que l'épidémie d'Ebola, c'est une question de communauté. Il faut que les communautés se prennent en charge. La société civile, les églises, les acteurs de la société civile. Il faut qu'ils prennent les relais et savoir prévenir, savoir éduquer la population, les sensibiliser. Une 17e épidémie après, il faut qu'on sente que la RDC a une politique de prévention. Pas seulement par rapport à Ebola, mais par rapport à toutes les épidémies. C'est comme si on agit par à-coup. On attend que l'épidémie survienne et puis on s'organise pour voir comment les contrer. C'est pas normal.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le mercredi 20 mai, c'était la date anniversaire de Antoine Evoloko Bitumba Bolai Ngoy, dit Evoloko Lai Lai Atwamo, ce célèbre chanteur, auteur, compositeur congolais et patron de l'orchestre Langa Langa Star. À cette occasion, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Avenir Mbea Mbea et on se retrouve juste après.
Ngayo yu Ngayi kombe na ye koi bayo Oto kendo mboka baboti bangay Peyo kuma mama ya vana nama
Ale ya ba Ale mwambe kingo mwambe ya leya soki ya koseka matame kokota soki ya seki mino pembe lokola loso ya kana leya mama yebisa papa na mama bakangisa lopango te mpo bamileki nzela balekaka masolo moi ekobimaka butu ekokotaka tina nini bolingo esalema boye lelo tolingana lobi toboyana leya mama leya 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 butu ekoka sheri ntongo etana mama ayawa sekokanisaka yo sutu na ndenge ayetamboli na ndenge yokolataka yokobongaka sheri fungola ndako mbula ekondoka o ngayawa likombe buki na makolo lokola susa kwe na mayo eyala ndengile ya penga na telefone pamba obolimwa telefone nanaboyaka natuni bapeti balobelinga ye alekaki awa bandako mpe banzete elingalai naleli oyo naleli oyo ngana bandiko ea naleli oyo naleli oyo
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du 7e massacre des civils par les EDF à Mambasa. Nous avons également analysé les 3 boucliers de la communauté pour briser la chaîne et sauver des vies face à cette 17e épidémie d'Ebola en RDC. Participe à cette émission, Fausté Kodiasala, il est journaliste et il est directeur de publication du journal Econews, paraissant à Kinshasa. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, il est analyste indépendante et elle est autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Faïd, il est journaliste à la RTBF. Les principales forces politiques de l'opposition ont officiellement lancé mardi 19 mai 2026 à Kinshasa la plateforme dénommée Coalition Article 64, C64 en sigle, pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC. À travers cette initiative, l'opposition rejette toute réforme constitutionnelle ainsi que toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Tout en appelant la population à la mobilisation et à la résistance, les membres de cette coalition C64, composée de l'ECID de Martin Fayoulou, d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, du LGD de Matata Ponyo, d'Envol de Délice Sessanga, de l'Alliance pour le Changement de Jean-Marc Kabound et d'autres mouvements politiques et citoyens, exige également le retrait de la proposition de la loi référendaire actuellement examinée au Parlement et poursuivent en disant qu'à compter de ce 19 mai 2026, il restait 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028. Benoît Faït, vous avez souhaité nous parler justement du lancement, n'est-ce pas, par les principales forces politiques de l'opposition de la plateforme dénommée Coalition Article 64, C64, pour la défense de l'ordre constitutionnel. On vous écoute.
Oui, je vais évidemment pas informer les auditeurs et les auditrices de Radio Okapi du contenu qui a été présenté cette semaine de cette coalition et la raison pour laquelle elle est née. Moi, je peux vous apporter en regard de l'extérieur, c'est peut-être la contribution la seule que je peux vraiment vous apporter. Comment on regarde en fait cette affaire depuis la Belgique? On s'étonne tout d'abord que le gouvernement de la RDC décide d'aller vers un changement constitutionnel. Ce qu'on en déduit ici, c'est qu'il y a une volonté présidentielle de briguer un troisième mandat, ce qui lui est interdit par l'actuelle constitution. Et ça, c'est pas vraiment la meilleure image que le Congo peut renvoyer à l'international. Évidemment, ça rappelle malheureusement d'autres exemples qu'on a bien trop connus toutes ces dernières décennies, depuis les indépendances en Afrique, tous ces présidents qui ont enchaîné les mandats les uns après les autres, au point de rester au pouvoir à des âges canoniques. Regardez autour de la RDC les exemples que vous avez en Ouganda, les exemples que vous avez au Cameroun, et on peut encore en citer beaucoup comme ça. Donc, il est, du point de vue belge, surprenant que le Congo se lance sur cette voie qu'on semblait plutôt être une voie qui était devenue une impasse. Maintenant, on entend dans le chef de ceux qui décident au Congo, notamment le gouvernement, et ceux qui appuient cette volonté de changement constitutionnel, des arguments qui sont de dire, cette constitution a été écrite à l'étranger, il y a là dans le contenu de ces constitutions des choses qui posent problème au quotidien, on pense notamment à la question de la double nationalité et bien d'autres exemples encore. Alors, on peut se dire qu'un changement constitutionnel peut être légitime s'il y a des bonnes raisons de modifier une constitution. Si l'objectif c'est de modifier une constitution pour permettre à un homme de s'accrocher au pouvoir, ça passe un peu moins bien. Et c'est pour ça qu'on peut déplorer qu'aujourd'hui, ce débat autour de ce changement constitutionnel ne soit pas mené finalement dans une forme d'apaisement politique où toutes les forces politiques en présence pourraient débattre, apporter des contradictions, qui est un débat qui serait finalement tout à l'honneur de la classe politique congolaise et tout au bénéfice de la population congolaise. Malheureusement, vu le rapport de force que l'on connaît en politique au Congo aujourd'hui, donc l'omniprésence de l'UDPS, de l'Union Sacrée, et le très peu de place qui reste à l'opposition, eh bien, qu'est-ce qui reste à l'opposition pour se faire entendre dans ce débat? C'est la rue. Mais on a aussi des craintes quand on regarde ça depuis la Belgique, parce qu'on sait que c'est devenu un peu difficile pour l'opposition de manifester dans la rue, que ça donne parfois lieu à une forme de répression. On connaît aussi les agressions commises par ceux qu'on appelle les forces du progrès. Ça interpelle aussi quand on voit ça de plus loin. Et voilà, on a aussi vu le rapport de Human Rights Watch qui rappelle aujourd'hui aux autorités congolaises la nécessité de garantir la liberté d'expression, de mettre fin aux arrestations arbitraires, à l'impunité. Donc voilà, le climat congolais, vu de Belgique aujourd'hui, est assez inquiétant et on se demande comment tout ce débat autour de cette révision constitutionnelle va aboutir et on espère surtout que ça ne se terminera pas dans des accès de violence d'un côté comme de l'autre.
Merci Faustin Kolyasala. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'opposition, dans les contextes du moment, l'opposition congolaise, n'a pas assez de marge de manœuvre pour contrecarrer cette démarche du pouvoir consistant à vouloir changer la constitution?
Non, merci Guy pour la question. Bon, évidemment, si les amis qui sont au pouvoir abordent cette question de telle manière, telle que vous l'avez présentée, je pense qu'ils sont en train de commettre une grave erreur. Évidemment, chez nous, on a l'impression que à chaque troisième cycle électoral pour renouveler les institutions, on nous présente toujours les mêmes problèmes. On l'a connu en 2016 avec Kabila. En principe, on devait organiser les élections en 2016. Et parce que Kabila avait déjà consommé ses deux mandats constitutionnels. Et on arrive en 2016, Kabila nous ramène le même débat sur la révision constitutionnelle. Et je crois que notre ami belge l'a très bien présenté. Parce que tout ce qui s'est dit ici, c'est parce qu'on veut accorder un troisième mandat à Tshisekedi. On ne peut pas se voir la face. Et les amis qui sont au pouvoir, ils estiment qu'en renouvelant la constitution, on va faire table rase de tout l'ordre constitutionnel qui existe depuis 2006. Et puis on va partir de zéro. Et Tshisekedi pourra se représenter et se représenter encore pour une autre fois. C'est comme si chez nous, en RDC, l'histoire était cet éternel recommencement. C'est comme si on est quelque peu amnésique à tout ce qui s'est fait avant. Imaginez-vous Kabila l'a tenté en 2016. Il n'y est pas parvenu 2 ans après. Il s'est retrouvé contraint d'organiser l'élection en 2018 pour lesquelles il s'est totalement effacé avant de confier le pouvoir à Tshisekedi. Parce que je crois que la bataille qu'on est en train d'observer aujourd'hui entre deux comtés de 64, l'effort de l'opposition qui se sont organisés contre le changement, et le C4, c'est-à-dire qui a été la réplique du pouvoir pour contrer la demande de l'opposition, c'est comme si quelque part, ce pays n'avait pas avancé. Parce que d'un côté, il y a le C24, la C24 qui veut nous faire croire que l'ordre constitutionnel est menacé par le pouvoir. Et le camp présidentiel avec la C4 cherche au contraire à présenter l'opposition comme une force de déstabilisation. Et derrière cette confrontation-là, on doit se le dire, il se profile déjà la bataille de 2028. Et puis on se pose la question, est-ce qu'en 2028, on aura les élections ou pas? Au moins, on a la conviction que le chef a dit, évidemment, quand je parle du chef de passe au chef de l'État, lors de sa dernière conférence de presse, il nous a dit ouvertement que tant que Goma et Bukavu ne seront pas récupérés, il ne faut pas penser aux élections. Et bien plus, le chef nous a révélé ses vraies intentions. Il s'est dit, il ne s'oppose pas à un troisième mandat contre la Constitution, évidemment. Il s'est dit, quand le peuple me le demande, je l'accepterai. Le peuple va vous le demander par quelle voie? Parce que la Constitution, la loi fondamentale fixe les règles. Des mandats après, tu t'effaces. Maintenant, si on nous ramène dans ce débat-là, changement, révision, ainsi de suite. Parce que je vois, même au niveau de la société civile, normalement avec les églises de réveil qui ont embarqué certains acteurs de la société civile, soi-disant neutres, tous parlent du changement de la Constitution. Mais personne ne vous donne les réelles motivations de ce changement. On a dit non, voilà, il y a des institutions budgétivores, il y a des institutions comme ceci. Mais les autres vous disent, bon, on peut tout changer, on n'en disconvient pas. Mais ne touchez pas, comme l'a dit un journaliste, RFI, aux fruits interdits, l'article 220. Parce que l'équilibre institutionnel repose sur cet article-là. Deux mandats après, tu pars. Donc c'est pourquoi je disais, et je crois, notre ami Benz l'a bien rappelé, c'est comme si on a oublié... On est toujours dans des crises institutionnelles, dans des débats juridiques qui nous enferment, dans des dialectiques compliquées. Et finalement, c'est le pays qui s'enfonce. On s'est fixé des règles. Celui qui sera élu président, il fait 2 mandats. Après, quel que soit le projet qu'il a, même s'il se croit doté d'une mission, d'un mandat, après, il s'efface. Et c'est ce qu'on doit respecter. Si on veut être un pays respecté, autant par le peuple qui vous donne le pouvoir, que par le monde entier qui vous accompagne. Voilà ce que je pouvais dire à cet instant.
Merci beaucoup, Faustin Kodiasera. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, quelle est votre lecture de la mise en place de cette plateforme de l'opposition dénommée Coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC?
Oui, j'aimerais analyser cette actualité à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les jeux démocratiques qui est en marche en RDC, parce que nous avons vu l'unité de l'opposition, les CID, l'Envol, LGD et d'autres plateformes de l'opposition qui sont soudées pour la question de respect des textes qui nous régissent en tant que démocratie. C'est vraiment une belle initiative à encourager et on demande aux autorités en place, aux autorités du pays, de pouvoir laisser ces jeux démocratiques se passer parce que ils ont été dans un temps dans ces mêmes exercices et ils ont été permis de s'exprimer sur leur opinion sur les respects des textes juridiques. Les deuxièmes niveaux d'analyse, c'est qu'est-ce qui mobilise vraiment l'opposition en RDC? Est-ce seulement le pouvoir? Parce qu'il y a d'autres questions existentielles qui devraient nous préoccuper au plus haut niveau. Nous avons cette crise épidémiologique sanitaire qui s'est décrétée. Nous avons des pans entiers de la RDC qui sont occupés. Donc depuis près de 3 ans, il y a une occupation. Et donc on aimerait voir cette effervescence observée dans les chefs des acteurs politiques des oppositions. Il y a la question de l'éducation où nous avons un budget à 13% alors que la moyenne c'est 20% pour les États subsahariens et donc les questions fondamentales ne semblent pas occuper les leaders de l'opposition en RDC, occupés suffisamment parce qu'on a vu des initiatives mais qui ne débouchent pas vraiment vers la fin, surtout la paix et la sécurité. Pour moi, ça c'est vraiment un débat qui ne doit pas être arrêté à aucun moment tant qu'on n'a pas réunifié les pays. Alors l'autre message qu'envoie cette coalition 64, c'est du point de vue des acteurs politiques en place de ne pas penser que nous sommes dans un état de non-droit et nous avons des textes qui ont même instauré ces institutions en place et donc ces textes doivent être respectés et donc la maturité démocratique des acteurs en place devait être manifeste en 2028 et donc on devrait déjà aujourd'hui connaître les dauphins du régime en place pour commencer à préparer l'opinion, à faire confiance à ces dauphins-là. Donc, on ne doit pas attendre 2028. Il ne faudrait pas qu'il y ait un vide institutionnel, parce qu'en 2028, la Constitution dit qu'on doit avoir un nouveau chef de l'État. Et donc, il faudrait, pour le côté des acteurs politiques, ne pas amener la gouvernance autour des individus, mais plutôt autour des doctrines, parce qu'ils nous ont vendu les socialismes. Et donc, on aimerait voir le nouveau socialisme qui sera là en 2028, et si la population accorde sa confiance à ces dauphins, à ce moment on aura un changement d'acteur politique au sommet de la nation. Et donc c'est vraiment très pertinent les moments actuels de définir les 2 ans, les 800 jours comme on dit, les opposants qui nous restent, qui nous séparent de 2028, de savoir si jamais en 2028 nous sommes là et on n'a pas un nouveau chef de l'État, qu'est-ce qui se passe? L'article de la Constitution qui dit que c'est le président du Sénat qui devrait être en place, mais si le président est en fonction et il est en pleine santé, en pleine forme, on ne peut pas prendre le président du Sénat pour le remplacer. Et donc, est-ce qu'il y aura un dialogue pour permettre d'identifier une personne qui va conduire les affaires courantes? Donc ça, ce sont ce genre de questions et je pense qu'il est temps d'avoir finalement ces dialogues pour la paix et la sécurité et aussi sur la question constitutionnelle parce que la révision ou la modification de la Constitution n'est pas une question taboue pour tout pays démocratique mais c'est l'opportunité et les moments qu'il faut consacrer à cette analyse de révision et de modification. Donc pour l'instant, c'est mieux vraiment de songer à un dialogue social et moi je soutiens l'initiative des pères évêques de l'Église qui pensent qu'il faut qu'on parle entre Congolais, qu'on puisse dialoguer de toutes les questions qui fâchent aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs. Merci. Et il faudrait pas s'y priver de ces moments précieux parce que les acteurs actuels étaient dans l'opposition et donc ils peuvent comprendre qu'il y avait en 2016 des assises de la CENCO qui ont débouché sur un régime de transition de 2 ans et qui nous a conduit aux élections. Donc on peut toujours déjà envisager ou anticiper même ces dialogues pour ne pas avoir un vide institutionnel au niveau du pays et surtout les risques d'instabilité institutionnelle. On a vécu ça tristement avec les martyrs de la Constitution, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi et beaucoup d'autres inconnus. Ouais. Mais ils étaient nombreux en RDC. On n'aimerait pas vivre ça. On aimerait vraiment que les acteurs politiques se concentrent sur les questions existentielle, fondamentale, accès à la sécurité, à l'eau, à l'emploi et pourquoi pas plus tard parler politique.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Mbuta de Kantani Boma et on se retrouve juste après.
Nangai surama ezali libaku ya la vie nazoki na motema o mwana mama na motema o go na motema o bozuma nini nga na sala odie omengo nyonso mpe osi ozwango feli lisumu nini nga na mema mwana nga na lemi mama.
C'était Mbuta de Kantani Boma dans l'orchestre Lipoa. Je rappelle que nous avons dans cette émission Faustin Kodiasala, il est journaliste et il est directeur de publication du journal Eco News paraissant à Kinshasa. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est analyste indépendante, elle est autrice et cofondatrice de Ouema Asbel, une ONG basée au Nord Kivu. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Faïd, il est journaliste à la STBF. L'inspection générale des finances, IGF, vient de se doter des nouveaux moyens de contrôle systémique. Ces dispositifs numériques présentés ce mercredi 20 mai à Kinshasa lors d'une conférence de presse animée par Christophe Bitassimo Abai, inspecteur général des finances et chef de service, intervient 39 ans après la création de ces gendarmes financiers congolais. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'IGF qui ambitionne de se transformer en véritable organe d'intelligence financière. Selon Christophe Obitasimoa, le contrôle systémique est préventif et il permet de détecter les défaillances avant les pertes, entre autres fraudes, évasion et gaspillage. Il s'appuie sur l'interconnexion des systèmes d'information fiscaux, douaniers, paye, marchés publics et ainsi de suite. Il croise et traite les données sur les flux financiers pour repérer les incohérences, établir des cartographies des risques et renforcer la gouvernance. Il a ajouté que ce contrôle est permanent, en temps réel, interconnecté et analytique, centré sur la traçabilité, la cohérence et la performance des systèmes de gestion publique. Faustin Kodiasala, vous avez souhaité nous parler de l'inspection générale des finances, n'est-ce pas, qui annonce que son établissement passe de la patrouille financière au contrôle systémique. On vous écoute.
Merci Guy pour la parole. Évidemment, j'allais dire, et vous l'avez même souligné, l'information a été donnée par le chef de l'inspection générale des finances le mercredi devant la presse. Et selon lui, en fait, l'IGF voudrait évoluer de la patrouille financière vers un contrôle systémique. Ce qui est un tournant important dans sa manière de surveiller la gestion des finances publiques. Peut-être les auditeurs pourront se demander la patrouille financière, c'est quoi le contrôle systémique, c'est quoi? Évidemment, pour l'inspection générale des finances, ils estiment que depuis tout ce temps, parce que l'inspection générale, c'est un organe de contrôle, de troisième degré évidemment. Parce que dans toutes les structures de l'État, il y a toujours un système d'audit, de contrôle, ainsi de suite. Et l'IGF vient en dernier ressort. Et ils estiment que depuis tout ce temps, il fonctionnait. Autant pour le contrôle a priori, comme le contrôle a posteriori, et comme le contrôle concomitant. C'est-à-dire, avant de poser des actes de gestion, l'IGF est là pour valider. Et de ce que son célèbre ancien inspecteur Gilles Alinguette avait vulgarisé en termes de patrouille financière. C'est-à-dire, avant qu'un gestionnaire ne pose un acte, l'IGF valide. Et c'est vrai que ça a soulevé un tollé, parce que dans l'opinion publique, on s'est dit, mais finalement, c'est le contrôleur qui devient en même temps gestionnaire. Enfin, ce qui change évidemment, c'est quoi, Guy? C'est que jusqu'ici, l'IGF intervenait dans une logique de contrôle classique. C'est-à-dire vérifier la régularité des dépenses, auditer les entreprises du portefeuille, enquêter sur des soupçons de corruption, des missions ponctuelles dans les ministères ou les établissements publics, et évidemment, publier des cas présumés de détournement de mauvaise gestion. Mais le contrôle systémique, en fait, il va au-delà de ces contrôles ponctuels-là. Il agit en amont, plutôt qu'après les dégâts. En fait, l'idée centrale, c'est que l'IGF veut surveiller les mécanismes eux-mêmes, c'est-à-dire les procédures de décaissement, les chaînes de paiement, les marchés publics, les circuits fiscaux, les exonérations, en fait, tout ce qui touche aux finances publiques.
Oui, mais Faustin, cette réforme n'a-t-elle pas un coût financier important?
Justement, c'est là où je vais chuter. Parce que si je dis l'IGF doit contrôler les procédures de décaissement, les chaînes de paiement. Cela suppose qu'il doit, à son niveau, être interconnecté à toutes les structures de l'État. Autant les régies financières, les entreprises publiques, les services de l'État qui émargent du budget de l'État. C'est pourquoi il faut mettre en place une logistique numérique. C'est pourquoi pour son programme triennal, qui prépare l'IGF à muter vers ses contrôles systémiques jusqu'en 2028, il prévoit un budget de 39 millions. Maintenant, il y a des questions qu'il faut se poser. Parce que l'IGF veut maintenant, au lieu qu'il commence à envoyer ses inspecteurs pour constater des dégâts, l'IGF veut qu'à partir de son bureau, avec cette interconnexion informatique, il peut déjà voir qu'à telle entreprise, à tel niveau, il y a une procédure qui a été contournée. Mais ça, il faut mettre en place une logistique numérique. Et cette logistique numérique, l'IGF estime que ça doit lui prendre 39 millions pour 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut mettre ça en place en 2026. On expérimente en 2027. Et puis en 2028, l'IGF espère atteindre la phase de maturité. Mais il y a encore une autre question qui se pose. Parce que les mêmes personnes qui résistent aux réformes, ce sont les gens qui profitent du système en place. Vous installez un système interconnecté dans les régies financières comme la DGI, la DGDA et la DGRAD, là, où l'IGF peut surveiller au loin toutes les opérations. Vous croyez que tous ces gens-là vont adhérer à cette réforme? C'est pourquoi la question qu'il faut maintenant se poser, et même il faut poser à l'IGF, s'il y a des résistances, qu'est-ce que l'IGF dispose comme moyen de coercition pour obliger toutes les structures et services à adhérer à sa réforme? Et puis il y a un autre, les 39 millions, qui va financer? Parce qu'au nom de la souveraineté, on supposerait que l'État congolais prenne en charge le financement des 39 millions. Évidemment, le défi est énorme. On reconnaît que le nouveau patron de l'IGF a la volonté d'évoluer, mais il y a aussi des contraintes auxquelles il faudrait se soumettre. Et la première contrainte, il faut trouver les 39 millions. Et la deuxième contrainte, il faut que les autres, tous les services contrôlés, adhèrent à l'approche de l'IGF.
Merci beaucoup.
Et que s'il y a des contraintes, comment l'IGF va amener tous ces gens-là, la DGI, les entreprises publiques, à se plier à son approche?
Merci beaucoup.
Voilà en fait les grands défis.
Merci beaucoup. Madame Chantal Faïda, vous l'engabiment. Quand vous suivez l'analyse de Faustin Kodiasala, l'avantage de cette réforme, n'est-ce pas, c'est non seulement le contrôle absolu, mais aussi la transparence. Or, il a même posé la question, il a soulevé cette question-là. Dans une société où les gens sont habitués à la malversation, à la fraude, à la corruption, est-ce que les gens ne vont pas développer les mécanismes pour contourner ce système qui vient d'être mis en place par l'IGF?
Oui, il y a lieu de saluer ces contrôles intelligents, directs, concomitants, qui va s'effectuer dans les entreprises publiques, au niveau de l'appareil public. Cependant, il ne faudrait pas qu'il y ait des attributions qui ne relèvent pas de l'IGF, qui deviennent des attributions de l'IGF à la suite de cette réforme, de cette innovation que nous saluons, bien qu'il y a beaucoup de contraintes en termes de temps de mise en œuvre, en termes de déploiement ou suivi, même la formation des inspecteurs, parce que si ça devient numérique, il faudrait que même les inspecteurs soient outillés à suivre ces réformes-là. Oui, et même l'accès à l'électricité, à la connectivité, voilà, pour la RDC. Donc on ne peut pas développer des initiatives en se limitant pour le simple fait de se situer à Kinshasa. Donc il y a beaucoup de provinces qui sont déconnectées d'électricité et de la connectivité à Internet, et ça risque de poser des problèmes si ça se limite à certaines provinces et pas à tout l'ensemble du pays. Et donc moi j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler même de l'origine de l'IGF, qui émane directement de la présidence de la République, alors que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, et donc nous avons d'autres institutions qui ont dans leur attribution le contrôle de l'appareil public, le contrôle de comptes, comme la Cour de comptes, qui a aussi des attributions qui lui reviennent de droit. Et donc, il ne faudrait pas que cette innovation puisse diluer la substance des activités ou du contrôle financier de ces genres d'institutions. Et donc, pour moi, l'innovation devrait être encadrée pour ne pas dérober d'autres attributions d'autres institutions de la République, et qui les font très bien, mais sont en manque de ressources, parce qu'aujourd'hui, l'IGF monte en flèche parce qu'il y a un budget conséquent à louer. Mais pour la Cour des comptes, ils sont vraiment en quête des ressources pour faire leur travail comme il se doit. Mais au moins, chaque année, nous avons des rapports de la Cour des comptes. Ça veut dire qu'ils font aussi leur travail. Et au niveau de chaque institution publique, il y a toujours des auditeurs, internes ou externes. Et donc, il y a quand même certains efforts à saluer. Et donc, il ne faudrait pas que nous puissions nous lancer dans des efforts qui nous coûtent extrêmement cher, alors que nous sommes encore un pays en développement qui recherche des ressources pour bien mobiliser des ressources fiscales. Parce que là aussi, les attributions qui sont données à toutes les régies financières ne sont pas toujours atteintes. Parce que chaque année, il y a des projections qui sont faites, mais on ne les atteint pas parce qu'il y a beaucoup de défis, surtout d'accès à l'information pour les régions qui sont déconnectées de l'électricité, de la connectivité, et aussi pour les régions qui ne sont pas couvertes par des supervisions permanentes, parce que les auditeurs internes doivent atteindre toutes les régions de la RDC pour faire bien leur travail. Donc pour moi, je salue cette innovation qui va permettre une transparence, mais il faudrait rester dans la limite des attributions au regard de la loi, et aussi doter ces autres institutions des ressources qu'il faut pour qu'ils fassent aussi leur travail. Donc on ne peut pas débloquer ces sommes colossales pour une seule institution parce qu'il y a une volonté politique du côté du pouvoir en place, et dépouiller les autres institutions des ressources qu'il faut pour faire leur audit. Donc c'est à saluer, mais à encadrer.
Merci beaucoup, c'est à saluer, mais à encadrer. Benoît Faïd, nous allons finir cette émission avec vous. De la Belgique, d'où vous intervenez, et quel est votre regard, n'est-ce pas, de ces nouveaux systèmes de contrôle que l'inspection générale des finances vient de mettre en place?
Guy, je vous dirais que toutes les initiatives qui permettent de lutter contre la corruption en RDC sont les bienvenues, tout d'abord, parce que c'est encore une image qui malheureusement colle à la peau du Congo, à l'international et en Belgique, et je pense, à raison, vous l'avez dit vous-même, la corruption reste un fléau au Congo. La gabegie financière reste un véritable fléau, et donc c'est quelque chose auquel il faut absolument mettre un terme. On sait que l'état déplorable dans lequel se trouvent les services publics, les infrastructures au Congo, le besoin immense de la population, et on pense déjà aux populations dans les zones urbaines, mais quand on pense aux besoins de la population dans les zones rurales, c'est encore plus flagrant. Et tout ça, ben, on ne va pas pouvoir l'améliorer, évidemment, sans des recettes fiscales efficaces et sans une lutte efficace contre la corruption. Donc oui, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment ça va tourner, mais je sais par contre que ça ne peut pas fonctionner sans une réelle révolution, on va dire, de culture politique au sens large, au sens vulgaire du terme, où la corruption doit être... c'est un peu comme Ebola, je vous dirais. On arrivera à bout d'Ebola et de la corruption que s'il y a réellement un effort collectif. Il va falloir que chacun joue son rôle, chacun à son niveau, que ce soit les gens qui ont accès au levier tout en haut de la pyramide, mais aussi ceux qui, quelque part, alimentent la corruption plus en bas de la pyramide. Ceux qui sont plus en bas ont des raisons évidentes de le faire, c'est pour des questions de survie. Ceux qui sont en haut en profitent de manière complètement éhontée. Mais au milieu, c'est tout un pays qui s'écroule. Et donc, lutter contre la corruption est essentiel. Est-ce que cette réforme va permettre d'y aboutir? Je me garderai bien de lire dans l'avenir.
Merci, c'est par là que nous finissons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Chantal Faïd Amoulenga Biouma, Monsieur Benoît Faït, Monsieur Faustin Kodiasala. Merci aussi à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Fièvre Mondo, une autre composition de Voloco Joker, une façon pour nous de continuer à lui rendre hommage, n'est-ce pas, l'occasion de son anniversaire. Et on se retrouve le samedi prochain.
La pera va qui sera yo locola, misoto ya nicolo. Monda tika kole la va, locola mena miso atatele. La pena polo la vi. Ara sambela pa kutu na moyo, na kete kepe tupela, na locola va sumoe. I posonga na la mukana sambela kanza be a benisa pena na pena koma moto ela pelini moto gata kobo pe kizibini kobo kamara gata kobo keina na koyanganga boli koela koyo eba niyo yo na damu na eba koyo. Tout le monde,
ediko
nana leli yo 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 mode ye ye nana leli yo papa made ba ye ye nana bengi ngai
bele kete
na pedale o
bele kete
na bela ki mama la ye
bele kete
na kimalo male za mama
bele kete
na sapa de te na
bele kete
na lele o na molele ye na lele o na molele no kalomwe
na meleli mundo na mansia na molele ye Namoleli espena dinae, namoleli e, nameleli e bale na plancho nangai, namoleli e, namoleli kiamangana na bebe nangai, namoleli e.
Tout le monde, oh, ça me dit ça, anasangi yo, oh, 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 I'm